Chaque année, 94 000 femmes déclarent avoir été victimes d'un viol ou d'une tentative de viol. Un chiffre en constante augmentation, mais difficile à évaluer car une victime sur 10 seulement franchirait les portes d'un commissariat pour porter plainte. Les autres restent emmurées dans le silence et dans leur souffrance. En France, la loi considère tout acte de pénétration comme un viol, un crime punissable de 15 ans de réclusion. Le violeur type ne serait pas toujours un dangereux psychopathe, mais la plupart du temps un père de famille intégré dans la société, un bourreau qui connaît sa victime. Pourquoi le viol reste-t-il aujourd'hui une honte, un tel tabou ? Comment certaines victimes réussissent-elles à sortir du silence ? Comment peuvent-elles se reconstruire ? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Sylvia. La vie de cette jeune femme a basculé un dimanche où elle faisait son jogging. Ce jour-là, elle en est sûre, son existence n'a tenu qu'à un fil. Je suis Olivier Delacroix. Soyez les bienvenus dans le tout premier épisode du podcast « Dans les yeux d'Olivier ».
Sylvia a aujourd'hui 32 ans. Danseuse professionnelle, elle boucle ses fins de mois en assurant des missions comme commerciale. 8 ans après les faits, elle a bien voulu me rencontrer à une seule condition. Que toute l'équipe de tournage soit rasée. La vue d'homme portant la barbe lui rappelle instantanément le visage de son violeur et c'est encore insupportable pour elle.
Sylvia. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va.
C'est plutôt une bonne journée aujourd'hui ?
Oui, il fait beau.
Il fait beau ? Oui. Bon. Merci en tout cas d'avoir accepté cette rencontre.
Merci à vous.
Parce que, en fait, il y a 8 ans, vous êtes allé faire un jogging avec votre maman,
oui.
Son compagnon.
Oui.
Et vous avez été agressée lors de ce jogging. Est-ce que vous pouvez me raconter dans quelles conditions cette agression s'est déroulée ?
J'avais prévu d'aller au marché, de faire un barbecue après. Ma mère m'a dit, allez, viens, on va faire un jogging. J'ai dit, oh, au début, j'étais pas très chaude. Et puis après, j'ai dit, bon, OK, vu que j'avais fait la fête la veille, bon, je me suis dit, allez, perdre un peu de calories, ça fera pas de mal. Et puis, donc, on y est allé. Et comme j'ai pas l'habitude de courir, parce que c'est pas mon habitude non plus de courir, j'ai eu un point de côté assez rapidement. Donc, j'ai voulu m'arrêter, ralentir le pas. Et puis, ma mère m'a dit, bah, écoute, c'est pas grave, tu nous rejoindras au banc de muscu. Pendant que toi, tu marches, nous, tu nous rejoins. Et puis, en fait, j'ai pas eu le temps d'arriver jusqu'au banc de muscu, en fait.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Moi, j'ai vu ma mère et son amie de l'époque donc partir. Et hop, après, on les voyait plus. Il y avait cet homme qui était là. Et accoudé. Et en plus, il faisait très, très chaud ce jour-là. Il faisait, je sais pas, il faisait 30 degrés. Enfin, quelque chose d'hallucinant. Il faisait super chaud. Et super beau. Et il était habillé super chaudement. Donc j'ai dit, c'est bizarre, il était en train de transpirer comme tout. Et puis ensuite, il avait un regard quand même assez perçant. Vraiment perçant et assez frappant. Et j'ai eu quelque chose. J'ai ressenti quelque chose, parce que j'ai jamais ressenti de choses comme ça. Au point où je me dise, Sylvia, fais demi-tour. Puis je suis passée quand même. J'aurais pas dû, c'est tout. J'aurais dû écouter ma première idée.
Votre instinct.
Mon instinct, oui.
Premier instinct. Donc, vous y êtes allée ?
Bah, je suis passée. Et au moment où il m'a prise, j'ai presque dit, j'en étais sûre. J'ai presque pas été étonnée, en fait. Mais voilà.
Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? Qu'est-ce qui vous passe par la tête
tout de suite ? Il n'y a rien qui passe par la tête tout de suite.
Rien.
Rien, on n'a pas le temps de penser. Moi, j'ai pas eu le temps de penser. Je suis passée. Et au moment où je suis passée, il m'a prise, il m'a étranglée, il m'a menacée avec le couteau. J'ai pas eu le temps de penser. J'étais complètement... je suis où, je fais quoi, il se passe quoi
Vous avez essayé de vous défendre ou...
Ben alors la première fois, oui, j'ai crié. C'est la seule chose que j'ai pu faire. Et puis il a serré plus fort en me disant « si tu cries, je te tue ». En me menaçant toujours du couteau à la gorge et il m'a dit si, « et en serrant ». Il m'a dit « si tu cries, je te tue, si tu cries, je te tue ». Donc j'ai essayé de crier une deuxième fois, mais il a serré plus fort tellement que ça m'a coupé la respiration et j'ai pensé vraiment que j'allais mourir étouffée, enfin mourir étranglée en fait. Mm-hmm. Donc voilà, et donc j'ai arrêté de crier. Et après, En une fraction de seconde, hein. Je sais pas comment c'est possible, mais il m'a jeté par-dessus la barrière, qui était quand même assez haute, puisque lui était accoudé.
Sylvia fait donc une chute de presque 20 mètres et se retrouve avec son agresseur au fond d'un ravin. Elle est blessée, son premier réflexe est de tenter de s'échapper.
Mais après, j'ai essayé de remonter et forcément, il m'a tiré par les pieds. Donc, je me suis arraché tous les ongles à essayer de remonter comme ça. C'est un peu comme, malheureusement, c'était un peu comme dans un film, quoi.
Ouais.
Je voulais rester en vie et lui, c'est ce qu'il attendait. Je savais qu'il attendait que ça. Que je me mette à crier et que c'est ce qu'il voulait. Et je savais que c'était un tueur, donc à la limite, les actes qui se sont passés pendant 2 heures, ça n'a pas été ma principale peur. C'est horrible, bien sûr, tout ça. D'ailleurs, j'ai du mal à en parler, j'en parlerai pas. Mm-hmm. Mais ma principale peur, c'était de mourir, parce que je savais que c'était pas quelqu'un qui voulait juste ça, comme il y en a beaucoup. Ils vont prendre une fille et puis ils vont partir et voilà. C'est... Non, lui, c'était plus que ça. Mais ça, je le savais, je le sentais. Donc, dès qu'il y avait un faux pas ou quoi, ça y est, il s'énervait et je savais qu'il fallait pas que je l'énerve, quoi. Et ça a sonné parce que forcément, ma mère me cherchait. Mmh. Et je l'ai même entendu, je l'ai entendu m'appeler. Après, j'ai entendu son compagnon m'appeler. Je les ai tous entendus là-haut. Et j'étais en bas, à 25 mètres plus bas, en train de me dire « je suis là ». Et on peut rien dire, rien faire. Et là, on se dit « mais je suis juste en bas et je vais mourir en bas, quoi ». Du coup, ben, il m'a dit « c'est quoi ça ?» Et là, c'est là que j'ai « mais c'est rien, on m'appelle, je sors ce soir et je vais parler comme si c'était normal ». Il m'a regardé, ah bon, puis il l'a cassé avec son pied.
Comment est-ce que, alors, vous êtes arrivé à, petit à petit, le faire passer petit à petit de votre côté, hein?
Oui, mais alors je sais pas. Je sais pas du tout. Et même encore aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais juste que je n'ai pas voulu jouer le rôle du psy, ou j'ai pas voulu jouer le rôle de sa copine, ou jouer le rôle de... Non. J'ai essayé vraiment de rentrer dans sa tête et comprendre pourquoi il faisait ça, pourquoi il était comme ça, qu'est-ce qu'il avait dans la tête, quoi. Donc en fait... Là, je lui ai parlé tout à fait normalement, alors que j'avais mon corps qui était quand même rempli de blessures, de brûlures, de peau à moitié retirée, de ronces qui étaient rentrées dans ma peau. Enfin, j'avais des multitudes de blessures assez énormes. Et j'avais donc terriblement mal. Mais j'ai voulu camoufler ça pour pas lui montrer que j'avais mal, pour pas lui montrer que j'avais peur. J'essayais de contrôler un peu mon corps, quoi. Je me suis contrôlée moi, c'est-à-dire que je contrôlais mon regard pour pas avoir l'air effrayé. Je pleurais pas, je criais pas, et j'ai essayé de lui parler normalement, quoi. Mais je pense que ça lui a fait bizarre, parce que quand je suis atterrie en bas et je lui ai dit mais je vais vous parler vraiment ce que je lui ai dit. Je lui ai dit mais t'es con, quoi. T'aurais pu simplement m'inviter à boire un café, j'aurais accepté. Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est complètement con. Il m'a regardé. Ah oui? Tu crois vraiment que si je t'avais invité à boire un café, tu aurais accepté? Bah oui.
C'est pas comme ça qu'on fait avec les filles.
C'est pas comme ça qu'on fait avec les filles. C'est ce que je lui ai dit. Et il m'a regardé, mais il s'est dit, c'est qui la folle, là? C'est qui le plus fou des deux?
Ouais, mais est-ce que à ce moment-là, vous avez vraiment peut-être ouvert une faille?
Je sais pas ce que j'ai ouvert, mais il y a cru.
Il y a cru?
Ouais. Je lui ai dit, tu peux être séduisant. Enfin, je lui ai fait des trucs, voilà. Je lui ai pas dit non plus qu'il était séduisant, parce qu'il aurait bien mm-hmm. Il est pas con non plus, et il est pas bête au point de croire qu'il était séduisant, mais au moins de le flatter un peu, de lui dire, bah regarde, t'as des beaux yeux, voilà, j'aurais pu être attirée par ça, pourquoi tu... Voilà, j'ai essayé de... Mais sans m'étaler non plus. Sans m'étaler.
Mais pendant ces 2 heures, il a abusé de vous?
Oui, pendant 2 heures.
Pendant 2 heures, donc oui. Ça veut dire que ces conversations, elles se déroulaient en même temps,
oui,
qu'il abusait de vous?
Entre. Aussi, pendant.
Mm-hmm. En tout cas, au bout de 2 heures, vous arrivez à décider, votre agresseur, à remonter?
Oui, comme on arrivait à parler, pendant 2 heures, j'ai quand même demandé d'aller nettoyer mes blessures. Je voulais juste qu'on nettoie mes blessures. Et je lui disais, mais tu viens avec moi, c'est pas grave. Tu m'accompagnes, je vais pas m'envoler, hein, je risque pas de m'envoler. Hein, puis je lui ai dit, vu ta carrure, et puis je rigolais, enfin, comme si c'était normal. Quand je parlais avec lui normalement.
Vous lui faites croire qu'il vous plaît.
Oui, mais sans non plus jouer à fond dedans. C'est genre, ah, tu me plais, ah, je veux, non. C'était vraiment, bon, bah écoute, pourquoi pas, je suis seule aussi, j'ai pas beaucoup de famille non plus, je m'ennuie parfois, alors que c'est totalement faux tout ça, mais c'est vrai que j'essayais de...
D'oser voilà, les choses.
Oui, de lui dire, voilà, j'ai besoin de toi, en fait. Et au bout de 2 heures, et en effet, il a dit, ok. Alors, quand il a dit ok... J'étais déjà sauvée, parce que je savais qu'il allait le faire. Mais pour moi, j'étais déjà sauvée, même si lui, il voulait m'emmener dans sa voiture, je ne sais où. Et là, après, on a pu remonter, et là, curieusement, je lui ai pris la main et je l'ai soulevée, parce que je voulais tellement remonter, que là, je me suis découverte une force surhumaine, je pense.
Dans le parc, Sylvia et son violeur, collés l'un contre l'autre, vont croiser plusieurs promeneurs. Mais qui pourrait imaginer qu'ils ne forment pas un couple ? Personne n'intervient. La délivrance arrive lorsqu'elle tombe enfin nez à nez avec sa mère.
Et sur le trajet, bah voilà, on rencontre ma mère. Je me suis détachée en une seconde et j'ai poussé ma mère très très loin. Je l'ai poussée avec une telle violence que je crois que je l'ai fait voler. Parce que j'avais tellement peur qu'ils s'en prennent à elle que je l'ai poussée. Et moi, je suis partie et j'ai couru dans la cabane des gardiens qui étaient là.
Et lui,
il repartait tranquillement vers sa voiture.
Il courait même pas
enfin... Non, personne ne savait qui c'était. Puisque jusqu'au bout, je n'ai pas dit qui c'était. Seulement juste après, je l'ai dit. D'abord, je l'ai dit, je ne sais même plus quand je l'ai dit. Je tremblais tellement, j'étais tellement... choquée que du coup je sais que je l'ai dit, j'ai dit dans la cabane des gardiens, mais très brièvement. Et donc là, ils ont tout de suite donné le signalement comme quoi c'était lui. La police aussi, du coup, ils l'ont arrêté, juste s'il mettait la clé dans sa serrure.
Bon, donc il a été appréhendé, voilà, et embarqué. Et vous, qu'est-ce qui s'est passé dans les minutes qui
Moi,
qui ont
ça
suivi?
A été le début du cauchemar. C'est juste le début du cauchemar, le début d'une autre vie.
Le soir même de son arrestation, le violeur dort en prison à Fresnes. Il s'appelle Alain Penin, un solide gaillard de 33 ans originaire du Nord. Connu par les services de police et déjà incarcéré pour consommation de stupéfiants, Penin n'a jamais été inquiété pour des affaires de mœurs. Depuis le drame, Sylvia et sa mère ne se quittent plus. Elles forment un couple presque fusionnel, elles partagent la même maison. Je voudrais savoir comment la mère de Sylvia a vécu l'agression de sa fille.
Je suppose que pour une mère, c'est un choc terrible d'apprendre ça. Est-ce que d'abord, vous avez trouvé l'énergie de la soutenir dans les premières heures et ensuite dans les semaines ?
Non, c'est elle qui m'a soutenue. C'est elle qui n'arrêtait pas de me dire « Mais tu te rends pas compte, je suis vivante. Je suis vivante. Ça va aller ? Tout va bien ?» Et puis elle souffrait beaucoup. Elle avait très mal dans tout son corps, son poignet, elle faisait beaucoup souffrir, enfin... elle était en sang, enfin, c'était horreur. Et même dans le camion des pompiers, elle me disait « Ça va aller, maman ?» Puis elle me souriait « Ça va aller, maman ? Ça va aller ? Je suis vivante !»
Quand vous avez appris ces 2 heures où elle a joué ce personnage de complice de son agresseur, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie qu'a employée Sylvia pour justement éviter la mort ?
Bah, c'est fort quand même, je trouve. C'est fort parce que faire ça, accepter de jouer sa copine, de faire semblant d'être d'accord, de faire taire ses douleurs, sa répugnance, sa souffrance. C'est énorme.
De quelle manière cette agression pèse encore aujourd'hui sur votre vie à toutes les deux ? Puisque vous vivez aujourd'hui toutes les deux.
Oui, alors on vit toutes les deux, mais en appartement séparé, comme j'ai expliqué. Donc ouais. Elle vit en haut, moi en bas. On est vraiment séparés, des portes séparées, enfin tout. Déjà, moi, j'ai beaucoup de mal à... Quand je la vois pas arriver, je m'inquiète tout de suite. Faut que je l'appelle tout le temps. Faut qu'elle me réponde tout de suite, sinon j'appelle tout le monde, la police, les pompiers. Ça y est, je suis en panique totale. C'est très lourd, pour elle et pour moi. Et puis, elle peut pas travailler normalement. Elle a peur de beaucoup de choses. Elle a peur de prendre les transports en commun. Encore maintenant, elle arrive à prendre sa voiture. Avant, elle prenait même pas la voiture. Il fallait l'accompagner partout, même au bout de la rue. Donc, elle voit des mecs louches partout. Mais bon, ça va mieux quand même. Mais tous les jours, il y a un progrès, on va dire. Tous les jours, il y a un petit progrès.
Donc les choses se remettent en place petit à petit.
Oui,
même si vous pensez quoi, au fond vous-même, vous pensez que ça sera jamais plus comme avant.
Oh ben non, il y a une fêlure. Comme on dit, le sourire n'est rien. C'est à l'intérieur qu'elle appelait.
Dans les mois qui ont suivi, Sylvia a fait plusieurs tentatives de suicide. Malgré l'aide d'une psychothérapeute, elle reste hantée par ce cauchemar. Elle traverse des crises d'angoisse. Sylvia est devenue instable, perturbée. Elle éprouve des difficultés à retrouver du travail et à le garder. Pendant longtemps, elle a même été victime du syndrome de Stockholm qui consiste à développer une empathie pour son agresseur.
Est-ce que vous pensez à cet agresseur qui est maintenant en prison
Tout le temps.
Et comment vous y pensez? Est-ce que cette pensée, elle évolue par rapport à lui?
Non,
est-ce
elle
que,
évolue
est-ce
pas.
Que, est-ce qu'au début, c'est de la haine d'emblée contre lui?
Alors, je peux pas vous dire, parce que moi, j'ai pas eu ça. J'ai eu ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Donc, j'ai pas eu de haine. Je voulais pas qu'il souffre, je voulais pas qu'on lui fasse de mal. Des choses aberrantes comme ça, quoi.
Ça veut dire quoi? Vous aviez de la compassion pour lui? Vous lui
Presque,
trouviez
oui.
des excuses?
Presque, oui. Oui, il m'a laissé en vie, donc pour moi, je suis ressortie vivante. Je suis ressortie vivante alors que je devais pas. Donc, pour moi, c'est presque une reconnaissance. Presque merci de m'avoir laissé en vie.
Vous lui deviez quelque
c'est
chose.
C'est presque ça. Puis je suis tellement rentrée à discuter avec lui que... Je sais pas, il a dû se passer quelque chose. Je sais pas, moi, je sais pas l'expliquer, ça. C'est un syndrome qu'on comprend pas nous-mêmes, quoi. On se dit, mais c'est pas possible. On voudrait le haïr, on peut pas le haïr. J'avais des gens autour de moi qui me disaient, oui, il lui faudrait ci, il lui faudrait ça. La prison à vie ou la chaise électrique, enfin voilà, on me sortait des trucs très très durs et j'étais là, mais non. Comment ça, non? Et là, ils ne comprenaient pas du tout.
Mais
quoi.
Vous en étiez presque à désirer qu'il sorte de prison
non.
vite
Pas ça, mais je voulais pas qu'on lui fasse de mal, je voulais pas qu'il souffre. Oui.
2 ans après le jogging dramatique du parc de Suresnes, Penin, le violeur de Sylvia, est jugé et condamné à 10 ans de réclusion par la cour d'assises pour viol et tentative d'homicide. Sylvia assiste au débat, une épreuve terrible pour la jeune femme. À nouveau, elle va affronter le regard de son agresseur dans le box des accusés.
Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, ce procès? Parce que c'est, je suppose, une épreuve.
Ça a été tellement dur que j'en ai même totalement occulté cette partie. Partie procès, j'ai oublié. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire. Enfin, non, c'est pas volontaire, parce que, voilà, mais j'ai occulté le procès. Je sais juste que quand je suis arrivée, je me suis effondrée. Et je suis tombée dans le coma, on ne pouvait pas me réveiller. J'ai dormi pendant 2 heures.
Vous n'avez pas de souvenir, donc, de ce procès?
Si, mais très peu.
Très peu?
Très peu. Je me souviens l'avoir vu, je me souviens avoir été 2 fois à la barre et ne pas pouvoir parler. À la place de parler, j'ai pleuré, donc forcément, le juge m'a dit de revenir quand j'étais prête. À chaque fois que j'essayais de venir, je pleurais, je repartais. Enfin, c'était... Ouais.
Mmh. 10 ans par rapport à ce qui s'est passé, comment est-ce que vous avez accueilli cette peine?
10 ans, bah déjà pour moi, c'était trop peu, parce que je savais quel genre d'homme c'était et qu'au bout de 10 ans, quand il ressortira, voilà, je savais ce que ça ferait. Maintenant, tout le monde m'a dit que c'était bien. Donc j'ai dit, ah, bah alors si c'est bien, alors je suis censée être contente. Alors j'ai dit, bah alors c'est bien. Mais j'étais pas bien, moi, par contre.
8 années ont passé depuis. Est-ce que vous avez réussi à avoir des petits amis et à avoir des relations normales avec les hommes depuis tout ça?
Ça a été dur. Ça a été dur. Au début, non. Au début, non, mais au début, je pouvais pas voir un mec. Mm-hmm. Je pouvais pas voir un homme rien que de... Ça m'énervait déjà. La vue d'un homme me dérangeait. Et puis, non, aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je veux. Mm-hmm. Aujourd'hui, je veux ce que tout le monde veut.
C'était bien, ça?
Une vie normale, stable, avec quelqu'un, une famille, des enfants. Mm-hmm. Voilà.
Derrière les barreaux, Alain Penin est un détenu modèle. 3 ans seulement après son procès, Il sort de prison pour bonne conduite en liberté conditionnelle. Mais un an plus tard, Penin récidive à Marc-en-Barœul. Il viole Natacha, une jeune joggeuse de 29 ans. Le scénario mis en place par Penin est exactement le même qu'avec Sylvia.
Vous avez tout de suite été mise au courant et vous êtes tout de suite identifiée à cette jeune femme.
Mmh. Je l'ai appris donc par une journaliste qui m'a appris ça au téléphone. Elle m'a appelée en me disant « Vous êtes bien un tel ?» Oui. J'étais étonnée. Vous êtes bien la victime de un tel ? Oui. J'ai commencé à me poser des questions et à me dire « Elle va pas m'annoncer ce que je redoutais le plus. » C'est comme si je le savais. Et elle m'annonce « Vous savez qu'il a recommencé ?» Et moi, non. Ensuite, elle m'a dit « Et il a recommencé. » Et cette fois, il a tué. Et là, elle m'a tué en disant ça. Ça m'a coupé les jambes. Ça m'a tout coupé. Et en fait, au fil du temps que j'étais au téléphone avec cette personne, j'ai eu un malaise, en fait, et je me suis écroulée à la sortie. Je voulais sortir du magasin où j'étais. Et... voilà.
Cette récidive, c'est quelque chose pourtant à laquelle vous vous attendiez, hein, puisque vous aviez prévenu largement que cet homme recommencerait.
Complètement, même. Je veux dire, déjà, je l'avais dit à tout le monde. Je veux dire, même au tribunal, je l'avais annoncé. Et pas que moi qui l'avais annoncé, d'autres personnes aussi.
Pour tenter de comprendre ce qu'avait pu endurer leur fille, les parents de Natacha rentrent en contact avec Sylvia. Besoin de savoir, de connaître la psychologie du violeur. À l'issue de la rencontre, ils lui donnent même une photo de leur fille.
Il y a quelque chose de très troublant, hein, dans le meurtre de Natacha. D'ailleurs, vous l'avez dans votre porte-monnaie, je crois.
Oui, elle est toujours avec moi, de toute façon.
Mais qu'est-ce qui vous trouble à ce point?
La ressemblance, quand même.
D'accord.
Enfin, on est assez proche de visage, on est de corps, de
gabarit. Mais vous vous ressemblez, gabarit, hein. Vous vous ressemblez, je vous le confirme.
Et moi, la photo que j'ai là, c'est une photo qui a été prise juste après mon agression, en fait. C'était le moment où, forcément, ben, j'étais comme elle. Donc, en fait...
Quand vous avez vu le visage de Natacha, ça vous a tout de suite sauté aux yeux, ça?
Je suis tombée à la renverse parce que ça m'a... La voir, ça a été très dur. Donc...
La ressemblance...
Non, mais c'est sûr qu'il a, il a cherché le même genre de femme, de toute façon. Et quand il ressortira, il refera pareil. Parce que quand il ressortira, il sera pas assez vieux et il sera pas assez mal en point pour tuer une autre fois. Mais ce sera trop tard. Sauf que là, je leur dis. Maintenant, il faut que c'est ça qu'il faut qu'il change.
Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rascle et Kevin Ousty. Pour écouter la prochaine histoire, pour entendre un autre témoignage, je vous donne rendez-vous sur l'application Europe 1. Vous pouvez aussi nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer par exemple. Et on se retrouve évidemment chaque soir, du lundi au jeudi, à l'antenne d'Europe 1, dans la libre antenne. À très bientôt.